Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de divisions à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité, et j'en prends toute ma part. L'espérance, la prospérité et la paix du quart de siècle qui vient dépendent de nos choix, aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. Chacun d'entre vous sera nécessaire.
Bonsoir Yves Tréhard.
Bonsoir Olivier, bonne année.
Bonne année à tous.
Bonne année Alain.
Et à ceux qui nous écoutent.
Oui.
Et à ceux qui nous écoutent.
Emmanuel Macron nous a souhaité également une bonne année cette semaine. Les traditionnels vœux présidentiels, mais quand même très particuliers cette année. Alain, Emmanuel Macron qui a reconnu quand même que la dissolution de l'Assemblée avait apporté davantage de divisions que de solutions. Il fait savoir aussi qu'il nous demandera, nous Français, de trancher des sujets déterminants cette année 2025. Enfin, c'est une année qui s'annonce très mouvementée. Est-ce que c'est la continuation de la crise politique ou est-ce qu'on va vers une crise de régime?
Alors, disons, 2024 aura été l'année de la crise politique la plus dure qu'on ait jamais connue depuis le début de la Ve République, sans hésitation. Pour 2025, la question est de savoir si on entre ou pas dans la crise de régime. Ça n'est évidemment pas inéluctable, mais ça n'est plus invraisemblable. Et ça, c'est déjà une nouveauté, une question et beaucoup d'interrogations sur ce qui peut se passer. Les circonstances politiques sont tout aussi difficiles aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a un mois. Bon, François Bayrou est plutôt adroit, mais le rapport des forces, il l'a dit lui-même. Il avait un Himalaya devant lui. Bon, et puis, on peut imaginer que le budget sera voté parce que personne ne voudra prendre la responsabilité d'entraîner des conséquences qui seraient catastrophiques, pas seulement pour les fonctionnaires, mais pour l'ensemble des Français. D'autant plus qu'on sait très bien que l'instabilité politique est la pire des choses pour l'économie.
Mais quand vous dites que le budget va être voté, c'est-à-dire que des opposants vont s'abstenir ?
Je ne dis pas qu'il va être voté, je pense qu'il peut être voté. C'est déjà
149.3.
C'est déjà... J'ai pas dit ça.
Ah.
Mais... C'est déjà de l'optimisme de dire qu'il peut être voté. Mais une fois qu'il serait voté, à ce moment-là, qu'est-ce qui empêchera d'un côté Jean-Luc Mélenchon et de l'autre Marine Le Pen de reprendre ce qu'ils ont commencé toute l'année dernière, mais avec des moyens nouveaux cette fois-ci, c'est-à-dire d'essayer de déstabiliser et d'obliger à la démission Emmanuel Macron. Et à ce moment-là, si on ajoute l'instabilité présidentielle à l'instabilité gouvernementale, on est vraiment dans la crise de régime.
Yves Tréhard.
Oui, c'est quoi une crise de régime? Alain a essayé de la définir, effectivement. Il faudrait quoi pour qu'il y ait une crise de régime? Que le président de la République démissionne? Ce qui est le souhait de certaines formations politiques.
Jean-Luc Mélenchon, notamment.
Le souhait avoué de Jean-Luc Mélenchon, le souhait non avoué, mais probable, de Madame Le Pen.
Qui, elle, a
une année fort difficile aussi, il faut le dire.
Elle a un rendez-vous judiciaire au mois de mars.
L'autre volet d'une crise de régime, ça serait qu'il y ait un soulèvement dans ce pays. Et rien ne dit que ce n'est pas possible. On a déjà vécu l'affaire des Gilets jaunes qui était, quand même, ça a été assez rude pendant plusieurs mois.
C'était une forme de révolte.
Et là, une révolte est toujours possible dans ce pays qui est éruptif, qui a toujours été éruptif. Et le président de la République, d'ailleurs, l'a dit plusieurs fois. Et donc, ça pourrait être ça. Ça pourrait dire, l'entreprise de démolition qui n'a pas été entreprise uniquement par M. Macron en 2017, mais par les électeurs eux-mêmes, qui ont dit aux partis traditionnels, et notamment aux partis gouvernement,
qui étaient les
socialistes, et les LR, on veut plus de vous, eh bien cette entreprise de démolition, elle continue. Puisque, l'ancien Premier ministre, les poutres continuent de bouger, M. Édouard Philippe. Et finalement, ce que pensait reconstruire Emmanuel Macron en disant nouveaux usages, nouveaux visages, eh ben, les nouveaux visages, on les avait peut-être eu quelques-uns pour quelques-uns d'entre eux, mais les nouveaux usages, oui, on les a. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout où on est. On est dans le brouillard le plus complet. Et donc, cette démolition qui avait été entamée il y a 7 ans, eh ben, on peut imaginer que finalement, elle arrive à trouver une issue, ce qui serait tout à fait malheureux. Alors, moi, je ne crois pas qu'on en arrive là, mais c'est une définition, une version d'une crise de régime.
Moi, je suis plutôt sceptique a priori sur l'idée de révolte, dans la mesure où, en tout cas en ce moment, d'après tout ce dont on dispose, pas simplement les sondages, mais tout simplement l'observation quotidienne, les Français donnent le sentiment d'avoir plus envie d'apaisement et de stabilité que d'entrer dans une période qui, alors pour le coup,
de
serait vraiment l'entrée dans deux... l'imprévisible absolu. Et je suis pas sûr que l'imprévisible absolu, ça figure au premier rang des vœux des Français pour 2025.
Je suis d'accord.
Cela étant, des dérèglements institutionnels, il faut bien reconnaître que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont des éléments à leur disposition. Et alors, en tout cas, il y avait des choses très intéressantes dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, et notamment le fait qu'il reconnaissait cette fois-ci ce qu'il aurait dû faire avant, que c'était
une très
mauvaise idée d'avoir dissous. Hein. Bon, c'est évident. Mais est-ce que l'idée qu'il puisse y avoir des référendums ou qu'il puisse y avoir des conventions citoyennes, bon, les conventions citoyennes, ça peut être utile, ça ne peut pas être décisif. Les référendums, c'est une machine diabolique. Hein. Les référendums, en règle générale, ça se retourne d'abord contre celui qui pose la question.
Alors justement, c'est assez paradoxal parce que le chef de l'État appelle à la stabilité, c'est le terme qu'il a utilisé, et en même temps, il veut que les Français tranchent sur les sujets déterminants. Et quand il y a des référendums, il y a des campagnes. Et quand il y a des campagnes, c'est pas calme, d'autant plus que ça risque de se transformer en référendum tout sauf Macron.
Le président de la République fait de la politique. Il occupe le terrain.
Donc, vous n'y croyez pas du tout à ces référendums?
Absolument pas, mais sur...
c'est pas la première fois qu'il en parle.
Depuis 2017, il en parle, puisque souvenez-vous qu'en 2017, il nous avait promis, à l'occasion d'un discours au Congrès, juillet 2017, une réforme constitutionnelle. Sur quel thème voulez-vous qu'il fasse un référendum? Changer la Constitution? Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait les deux chambres qui votent aux deux tiers, qui soient d'accord, qui convoquent un Congrès.
Ce qui veut dire qu'il faudrait, en pratique, faire d'abord un référendum sur le référendum avant d'organiser le référendum.
Après, sur des sujets...
La fin de vie?
Mais la fin de vie...
Mais les sujets de société... Non, c'est pas
important. On peut pas le faire.
Les référendums, c'est sur l'organisation des pouvoirs publics, des services publics... Et sur,
la proportionnelle?
Et l'économie ou le social. Rien à voir avec la fin de vie.
Mais la proportionnelle, ça n'a pas de sens dans la mesure
où...
C'est une loi simple.
Pas besoin de référendum.
Il suffit que les députés la votent.
Deux choses. Donc le référendum, vous ne pouvez pas le faire sur n'importe quoi et sur n'importe quel sujet. Des sujets d'immigration, impossible.
Ah si, on peut faire sur la réforme des retraites. D'ailleurs, la gauche dit,
Et vous croyez qu'il va aller prendre...
Faites-le sur la réforme des retraites.
Alors, deux choses, deux limites. D'abord, comme l'a dit très bien Alain, ça se retourne toujours contre son auteur, contre celui qui
même
pose
de Gaulle.
Questions.
Même
surtout
de Gaulle.
Surtout lorsqu'il est impopulaire.
Même de Gaulle.
Ça, c'est
qui
n'était
pas impopulaire.
Pas tous les référendums, il en a gagné quand même.
Ça, c'est la première chose.
Mais enfin, sur des sujets qui n'avaient rien à voir.
Et la question, il sait qu'il va la perdre, cette question-là, les retraites. Il sait pertinemment, puisque...
Donc, on fait un référendum, on est sûr de gagner.
Donc, un référendum, vous savez, depuis 2005, où il y a une gifle qui a été attribuée et assénée, c'est ce que je cherchais le mot, à Jacques Chirac, je ne vois pas qui prendrait le risque de s'engager sur ce terrain-là.
D'autant que beaucoup de Français se sont sentis trahis ensuite.
Ben justement,
on a repris ce qu'il y avait dans ce référendum et on l'a fait voter à l'Assemblée.
On a cumulé les inconvénients. D'une part, le référendum a été perdu et d'autre part, les Français ont été floués.
Oui.
Alors, ça, c'est pas très tentant. Mais non, mais la question est de savoir jusqu'où il y aura ou non une capacité de compromis. Quand il n'y a pas de majorité, et pas de majorité de très loin, là, c'est pas de majorité de très près, c'est le contraire. Quand il n'y a pas de majorité de très loin, soit il y a la crise, qui devient à ce moment-là une crise de régime, si c'est répétitif. Il ne va pas y avoir un Premier ministre par trimestre toute l'année 2025. Bon, si ça n'est pas un système de remplacement trimestriel des Premiers ministres, Eh ben, il faut trouver des compromis. Alors, je reconnais que les compromis, par exemple, on avait pu espérer il y a quelques semaines, c'est pas tellement vieux, que les socialistes éventuellement envisageaient de passer non pas un pacte, mais une pratique en fait de non-censure à condition
non, ça
que.
Ça s'est pas fait.
Mais non seulement ça, mais on a l'impression que maintenant ils sont en recul par rapport à ça. Or, les socialistes sont les seuls qui puissent éventuellement permettre une solution. Sans les socialistes, c'est pas possible.
Après, on va savoir assez vite au mois de janvier s'ils sont toujours du côté des insoumis pour la censure, parce que j'entends les insoumis dire que dès le mois de janvier, ils vont déposer une motion de censure.
Non, mais ça, c'est différent. Non, il va y avoir une motion de censure, effectivement, des insoumis dès le mois de janvier.
Est-ce que les socialistes vont la voter?
Non, on ne sait pas, on verra.
Si,
on verra.
C'est possible.
Il y a un doute.
Non, mais ce qui est le plus probable pour 2025, c'est un immobilisme total. De deux choses l'une.
Oui.
Soit le gouvernement de François Bayrou tombe parce qu'il y a une motion de censure et que cette motion de censure trouve une majorité, ce qui est loin encore d'être acquis aujourd'hui, puisqu'il faudrait que le Rassemblement national s'associe à la gauche. Première chose. Deuxième possibilité.
Il se passe rien.
Il se passe rien. Et oui. Moi, je vais vous dire une chose. Je pense que François Bayrou, qui est malin, il faut savoir une chose, c'est que François Bayrou est un homme extrêmement rusé, madré, qui connaît parfaitement la Constitution, qui sait comment œuvrer, manœuvrer.
Oui, mais Barnier aussi.
Non, il sera beaucoup plus habile que Barnier, si on me permet cette expression
donc
un peu facile.
Donc il peut tenir en ne faisant pas grand-chose.
Mais évidemment, parce que de toute manière, à part passer le budget, et ça c'est une obligation, il n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Rien.
Il ne trouvera aucun sujet
jamais une majorité suivant. Sur des sujets d'importance.
Oui. Alors, deux choses. La première, il reconnaît lui-même qu'il a devant lui un Himalaya. Hein. C'est son expression et sa formule.
Mais il va essayer de le contourner.
Si, quand on a un Himalaya, on décide d'avancer à petits pas, il y a assez peu de chances de pouvoir le franchir, quand même.
Non, mais on peut le contourner.
Et pour le contourner, là, il ne faut pas un quinquennat, il faut un siècle. Bon, mais concrètement, si on n'avance pas, c'est un enlisement politique, mais c'est, pour moi, c'est l'essentiel, là. C'est une catastrophe économique, ce que tous les investisseurs, évidemment étrangers en premier, mais aussi tous les chefs d'entreprise détestent, c'est l'instabilité fiscale, l'instabilité sociale.
Si on bouge rien.
Si on ne bouge rien, si c'est l'enlisement, personne ne saura comment ça se terminera et on se demandera à chaque moment est-ce que ça va continuer, est-ce que au contraire ça va s'effondrer, est-ce qu'il y aura un pas. Si c'est du surplace économiquement, c'est une catastrophe.
Alors ça, je suis en désaccord avec Alain. Je pense que le salut de la France et le salut du gouvernement Bayrou, c'est qu'effectivement on soit dans l'immobilisme économique. Pourquoi? Parce que ce soit s'il y a le désordre institutionnel, désordre politique, eh bien c'est là où les investisseurs et les responsables de nos entreprises ne savent pas sur quel pied danser, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Ils n'embauchent plus, ils n'investissent plus, et rien ne se passe.
Et pourquoi ?
Rien ne se passe.
Et pourquoi ?
Si le Premier ministre arrive à passer son budget, cher Alain...
Ça va rassurer.
Ça va rassurer dans un premier temps, et on dira, bon, bah restons comme ça. Parce que donner le pouvoir à la gauche, donner le pouvoir au Rassemblement national, c'est sûr que économiquement, ça sera dramatique. Dramatique.
François Bayrou, il n'inquiète pas les milieux financiers,
absolument
les
pas.
Entreprises.
En plus, il a un discours sur la dette qui est un discours qui est plutôt raisonnable.
Il a toujours eu, d'ailleurs.
Donc il va pas, j'espère, qu'il va pas réitérer la bêtise, parce que c'était une bêtise de Michel Barnier de vouloir augmenter la fiscalité en certains domaines.
Ah, le ministre de l'économie, je ne sais pas si vous avez entendu M. Lombard, il a dit
j'entends bien.
Des hausses d'impôts ciblées.
Oui, mais je le connais bien, M. Lombard, il est très malin aussi. très malin, il connaît bien son affaire.
Bon, alors d'après
Yves, il y a des gens malins là.
Voilà, oui, mais il faut mieux être malin dans ces circonstances-là.
Il faut mieux être malin en ce moment.
Non, voilà. Et donc c'est pour ça que je suis pas d'accord avec vous, Alain. Je pense qu'il n'a pas intérêt à jouer les malins justement et à faire l'audacieux en disant voilà, je vais faire telle et telle réforme.
Non, c'est pas ça.
Il faut qu'il reste beaucoup plus calme que ça.
C'est pas ce que je veux dire. C'est pas du tout de faire de l'acrobatie ou de faire de la gymnastique inutile. C'est si on n'a pas des décisions claires, et évidemment le budget, ça va être la première des choses. Est-ce qu'on va réellement, puisque faut pas tourner autour du pot, l'objectif est de savoir si mieux que Michel Barnier, François Bayrou arrivera à présenter un budget qui impliquerait une baisse réelle et substantielle des dépenses. Bon, ça, c'est pas une décision populaire, hein, parce que on peut dire d'avance que chacun des secteurs, mais de tous les secteurs, vont immédiatement se gendarmer et dire « Ah ben non, pour nous, c'est pas possible. Ce sera pas possible pour l'éducation, ça sera pas possible pour la police, ça sera pas possible. »
Vous avez déjà commencé avec Michel Barnier, avec la suppression des profs qui était contestée.
Oui, mais justement, s'il y a une baisse qui est souhaitable des dépenses, ça sera, le gouvernement sera inévitablement impopulaire.
Et là, il peut y avoir des manifestations.
Et les oppositions, évidemment, essaieront d'en tirer parti. Mais je crois que si on veut redonner confiance un peu à tout le monde, y compris aux acteurs sociaux, dans ce qu'on est en train de bâtir, on ne peut pas se contenter de faire du surplace ou de jouer l'enlisement.
Alors, en plus,
je crois qu'en revanche, on n'est pas obligé de faire de l'aventurisme. Mais je pense qu'il faut des décisions qui soient claires, que tout le monde comprenne et dont on pense qu'elle serait applicable au-delà d'un trimestre.
Alors Alain,
si c'est avancer dans le brouillard, et ben c'est comme ça qu'on rentre dans un réverbère dans le meilleur des cas.
Alain, il y a un moyen de le faire, c'est justement de pas passer par la loi de façon systématique,
et de passer par les décrets.
Oui. Il y a beaucoup de choses, notamment sur le front de la sécurité, qui peuvent être.
C'est tout à fait vrai ce que vous dites.
Ce qui peut être fait
c'est
par
tout
décret.
À fait vrai ce que vous dites
sur l'immigration.
C'est typiquement
aussi
la stratégie des bouts de ficelle.
Bah oui, mais
il n'y a rien d'autre.
Voilà, si vous êtes tous les deux en train de dire il n'y a rien d'autre.
Vous pensez qu'il y aura des grandes réformes là,
Je ne pense pas qu'il y aura des grandes réformes. Je pense que ce qu'il est possible de donner avec le budget comme premier signe, c'est cette fois-ci, on s'attaque réellement à diminuer le déficit.
Pour l'instant, ça reste flou.
Mais ça reste le budget.
Mais attendez, on ne peut pas dire que ça reste flou maintenant.
L'économie a fait une grande interview, ils ne disent rien
encore,
là-dessus.
Ils ne savent pas encore eux-mêmes ce qu'il y aura dans le budget.
Mais ça, c'est le budget.
On ne peut pas leur reprocher.
Non, mais il y a deux choses.
Il y a des consultations qui ont commencé avec les groupes politiques.
C'est normal.
Il ne faut pas qu'on mélange tout. Il y a le budget avec des décisions qui sont prises sur le front économique et de la dépense publique. Ça, c'est une chose. Mais ce budget, effectivement, il faut qu'il soit pas du tout celui que Michel Barnier nous avait présenté. Ça, c'est la première chose. Après, il y a des réformes. Et c'est des réformes de structure dont on parle.
Ces réformes de structure n'auront pas lieu.
Ça dépend lesquelles.
En revanche, vous pouvez restaurer l'autorité de l'État. Vous pouvez redonner du lustre.
Avec le duo Retailleau Darmanin.
Au pouvoir exécutif, notamment. Avec, d'abord, l'exécution des lois existantes. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et deuxièmement, avec des décrets ou des directives qui peuvent être données.
Eh ben, vous voulez la stratégie des bouts de ficelle et moi, je veux la stratégie de la clarification. Chacun ses préférences.
Un dernier mot, est-ce que Emmanuel Macron va laisser François Bayrou agir?
Il n'a pas le choix.
Ah oui, ça, je crois. Ça, je crois.
Il n'a pas le choix.
Alors, évidemment, s'il reprend son idée des référendums, peut-être que François Bayrou aura un autre avis.
Oui, là.
Bon, mais il est obligé de lui laisser, en tout cas dans un premier temps, faire ses preuves.
Et pourtant, il avait aussi des lignes rouges. Il ne voulait pas que Michel Barnier touche à son bilan, notamment son bilan économique, la politique de l'offre.
Il va être très soucieux de ça.
Ah, donc, il y a quand même des lignes rouges.
Bien sûr qu'il a ses lignes rouges. La seule chose, c'est que les lignes rouges étaient terribles au premier trimestre de 2024, inopérantes à la fin de 2024, et qu'aujourd'hui, lui aussi sait très bien que ou bien ça passe, à commencer par le budget, ou bien ça casse.
Ouais, bah c'est ce qui est sûr, c'est que le président de la République, il est obligé d'être soucieux de la trace qu'il va laisser quand même, parce que
bah, il n'est pas obligé, il pense qu'à ça.
Oui, mais il est obligé d'y veiller et de faire attention, parce que jusqu'à les derniers mois qu'il nous a présentés sont des mois de destruction complète de son bilan. Hein, ça a failli être le cas avec Michel Barnier qui voulait revenir justement sur la fiscalité.
Allez, c'est terminé. Merci messieurs. Encore une très belle année et de très beaux face à Duhamel à venir en 2025.